France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, une émission du 10 mai 2006 et que nous rediffusons aujourd'hui à l'occasion de son 160e anniversaire, l'abolition de l'esclavage. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, décrète. Article 1er. L'esclavage est aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. 27 avril 1848. Même s'il est encore pratiqué dans quelques États d'Afrique ou d'Asie, l'esclavage est en principe interdit dans tous les pays du monde. Mais s'il n'y a plus personne aujourd'hui pour le défendre, on oublie souvent que pendant plus de 40 siècles, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les civilisations ont pratiqué ou justifié l'esclavage. Jusqu'à ce qu'à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, en Amérique ou en France, quelques esprits éclairés commencent à remettre en cause la forme la plus monstrueuse de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais il faudra encore attendre un siècle pour qu'elle soit enfin interdite dans presque tous les pays du monde, y compris celui qui, jusqu'en 1888, avait fait traverser l'Atlantique à plus de 4,5 millions d'esclaves. Cette année-là, en abolissant l'esclavage, le Brésil ruinait du même coup les trafiquants dont il avait fait la fortune.
Le Brésil, comme le monde entier, a aboli l'esclavage. Toute cargaison acheminée présentement sera saisie au large. Aux yeux de la loi, Foreign Minar et nous du même coup, ça n'a plus d'existence. Votre fortune a été confisquée par la Banque du Brésil. Et les Anglais mettent à prix votre tête.
Ça, c'était mon contrat avec le consortium de Bahia.
À l'esclavage, le plus grand malentendu de toute l'histoire de l'humanité.
Ce n'était pas un malentendu. C'était un crime.
Olivier Pétré-Grenouilleau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et auteur d'un livre remarquable sur les traites négrières qui a été publié il y a 2 ans chez Gallimard et dans lequel vous rappelez la très longue histoire de cet épouvantable commerce qui a décimé l'Afrique. Mais ce qui est encore plus effrayant dans l'histoire de l'esclavage et de la traite, c'est qu'il a fallu attendre 40 siècles pour qu'elle soit considérée comme un crime. Pendant 40 siècles, il y a pas eu beaucoup de philosophes, pas eu beaucoup de religieux, pas eu beaucoup de régimes politiques qui aient condamné l'esclavage et la traite.
Alors c'est à la fois vrai et à la fois faux, puisqu'il y a toujours eu, non pas simplement pour la traite et l'esclavage des populations noires, mais pour la traite et l'esclavage en général, toujours eu dans toutes les sociétés pratiquement un certain malaise, puisque finalement il y a toujours eu une certaine conception qui faisait qu'on avait du mal à servir un autre homme, et en même temps, c'est le droit naturel par exemple, et en même temps, on cherchait des alibis, c'est le droit des sociétés, le droit des hommes, des alibis pour justifier. Et justement, pendant des siècles, il y a pu y avoir ces accommodements, l'acceptation, la contradiction entre le droit naturel et le droit des hommes en société. Il arrive un moment, au contraire, on n'accepte plus cette contradiction, et c'est le droit naturel qui prime. Mais il y a toujours eu un malaise dans les sociétés vis-à-vis de l'esclavage, d'où la multiplication des alibis pour légitimer. Si finalement il n'y avait aucun malaise, on n'aurait pas eu besoin d'alibis.
Pour légitimer l'esclavage et la traite, vous parlez des traites, Olivier Pétré-Grenouilleau. C'est vrai que quand on pense à la traite, on pense toujours à la traite transatlantique, celle qui a amené des millions d'esclaves en Amérique, mais ce n'est pas la seule.
Oui, alors si on parle des traites dont les populations d'Afrique noire ont été victimes, il y a donc la traite par l'Atlantique, que j'appelle d'ailleurs traite occidentale, parce que du nom, enfin, en fonction de ceux qui y jouent un rôle important, les Européens, les Américains, parce que des Africains sont déportés vers les Amériques, mais aussi au départ, avant même la découverte de l'Amérique, vers les îles Atlantiques et le sud du Portugal, et déportés également vers les îles de l'océan Indien, sous contrôle européen. Donc je parle de traite occidentale pour l'ensemble de ces déportations.
Alors il y a aussi une traite interafricaine dont vous parlez, et puis une traite orientale en direction, je crois, des pays arabes, Olivier Petridonouillot.
Oui, donc une traite interne à l'Afrique noire, puisque l'esclavage existe en Afrique noire comme dans la plupart des sociétés du monde à d'autres époques. Et puis une traite en direction du vaste monde musulman qui s'étend donc de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Inde. Et même ensuite, par le biais du commerce, des commerçants musulmans, on a retrouvé des esclaves noirs jusqu'à Canton en Chine.
Ah oui. Alors tout ça va être interdit après qu'au XVIIIe siècle, quelques esprits éclairés remettent en cause l'esclavage en Amérique, en Angleterre et en France, où un aristocrate oublié profitait de l'abolition des privilèges le 4 août 1789 pour demander aussi l'abolition de l'esclavage.
Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis.
Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines.
On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était un de son sang, de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste.
De vrais bourreaux atterrés dans promettant d'un léger séché, faisant pour laisser les encore des tentatives inhumées, et contre le complot. Qui proteste.
Et le peuple brisant leur fer, ont malgré la distance des mers, stance des mers,
fini par s'entendre de reste.
Fini par s'entendre de reste.
Et c'était « La liberté des nègres », une chanson de la Révolution française, pendant laquelle l'esclavage a été aboli en 1794. Mais bien après d'autres pays dans ce domaine, Olivier Petré-Grenouillot, la France a été plutôt en retard.
En retard, en fait, tout est relatif. Il est vrai que le Danemark décide d'abolir la traite en 1792, mais en se donnant 10 ans pour que la mesure soit effective, donc 1802. Il est vrai que certains États des futurs États-Unis décident d'abolir également la traite et que, par exemple, les Quakers ont décidé d'abolir l'esclavage dans leur colonie de Pennsylvanie. Donc il y a des abolitions, finalement, des abolitions en ordre dispersé. Et certains prennent parfois une avance, mais sont ensuite rattrapés par d'autres. C'est un mouvement complexe.
Là, on est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, dit-on. Et pourtant, en France, les grands philosophes semblent ne pas s'intéresser à la question. En tout cas, ils en parlent peu. Il y a très peu de gens qui protestent contre l'esclavage lui-même. Vous en citez quelques-uns, l'abbé Raynal, Bernardin de Saint-Pierre. Mais ni Diderot, ni Rousseau, ni Montesquieu, ni Voltaire ne s'y intéressent énormément.
Alors, les philosophes ont joué un rôle, il me semble, important. Pendant longtemps, on les a un petit peu encensés, en expliquant que l'abolition de la traite et l'esclavage était due simplement à des philanthropes anglais et à des philosophes français. Et on a lourdement exagéré. Et ensuite, on a exagéré dans l'autre sens, en disant que finalement, les philosophes étaient des hypocrites et qu'ils n'ont joué aucun rôle. En fait, ils ont joué un rôle, mais progressivement. jusqu'aux années 1760-70, l'attitude qui domine, c'est plutôt la gêne ou le doute. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle que les philosophes français passent du doute à l'opposition au système de l'esclavage. Donc à la fin du siècle, ils s'opposent véritablement. Et Montesquieu, dans l'Esprit des lois, si on le lit au premier degré, on a l'impression qu'il légitime la traite, mais en fait, il utilise le détour de l'ironie qui est une arme essentielle au XVIIIe siècle. On ne comprend rien au texte des philosophes si on ne passe pas par ce détour de l'ironie. Et en fait, dans l'Esprit des lois de 1748 déjà, Montesquieu critique l'esclavage. Alors, leur attitude est jugée ambiguë a posteriori parce qu'ils veulent mettre un terme à l'esclavage. Donc, c'est une position assez radicale. Mais en même temps, ils sont réformistes. Ils veulent mettre un terme à l'esclavage, au système en lui-même, pas simplement affranchir quelques esclaves, mais ils se donnent pour cela du temps. Et Condorcet imagine, par exemple, qu'il faut reprendre 77 ans. Et donc, il peut y avoir pour nous aujourd'hui une contradiction entre la volonté de mettre un terme au système et le fait de dire, voilà, on va prendre le temps pour le faire.
Et pourtant, alors, en 1789, le jour même de l'abolition des privilèges, on l'a entendu dans cet extrait de film, le duc de La Rochefoucauld demande l'abolition qui sera votée en 1794 seulement, je crois.
Oui, tout à fait. 1794, un contexte particulier. À ce moment-là, d'ailleurs, les anciens esclaves de Saint-Domingue sont libérés eux-mêmes par la grande révolte qui était ensuite commandée par Toussaint Louverture. C'est le contexte également de la Convention Montagnarde, de la terreur, de l'occupation de certaines colonies françaises par les Anglais. Donc il y a tout un contexte qui a joué, en plus, évidemment, des idéaux révolutionnaires.
Abolition qui sera supprimée par Napoléon en 1802, Napoléon rétablissant l'esclavage, tandis qu'au Danemark en 1803 et en Angleterre en 1806, on interdit la traite transatlantique des Noirs, ce qui rend difficile le travail de tous les bateaux qui la pratiquent.
Bien en vue !
3 pipes par jour, plus que 120 pipes et nous serons arrivés. À moins que nous nous rencontrions un patrouilleur.
Vous n'avez jamais été visité ?
Si j'avais été, je ne serais pas là. Balancé au bout de ce mât.
Ça, c'est les guerriers. Alors je les serre un petit peu plus par précaution.
Patron, tu vas les blesser à la cheville. Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas gâcher la marchandise ?
Eh bien, docteur.
Un beau spécimen. Des épaules de lutteur, des jambes solides. 140 au moins de tour de poitrine. Et il a toutes ses dents. Montre-lui tes dents.
Hein? Et les autres?
Pas tous beaux, vous savez. Ils nous ont enfilé des mal fichus, des mal nourris.
Ceux qui ont besoin de double ration, vous les signalerez.
Celui-là.
Marque le bébé.
Doucement, je veux pas que tu me l'abîmes. Tout est paré, aucun navire ne pourra nous attraper. Il n'y a plus qu'à se laisser porter jusqu'à La Havane.
Et c'était un extrait du film Tamango de John Berry, l'histoire d'un trafiquant d'esclaves qui tend l'Afrique pour Cuba avec une cargaison d'esclaves que lui avait vendu un chef africain. Ce qui est horrible dans cette affaire, Olivier Petré-Grenouillot, et qui a décimé l'Afrique, c'est que des Noirs y ont participé, puisque ce sont des chefs africains qui vendaient des esclaves à ces négriers.
Oui, il y a eu une partie des îles africaines qui a participé à la traite, puisque en ce qui concerne la traite atlantique, il y a parfois des captures directes, parfois des négriers capturent directement des esclaves, mais dans la plupart des cas, il est vrai qu'on a affaire à un commerce entre des gens qui vendent des esclaves et des gens qui en achètent. Donc des élites africaines ont participé à la traite, comme d'autres élites, parfois, s'y sont opposées.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'esclaves qui ont été transportés d'Afrique sur le continent américain ?
Oui, alors là, disons que dans ce sujet qui est très complexe et parfois très controversé, il y a au moins, heureusement, quelques points d'accord chez les scientifiques. Et au niveau des chiffres, il y a eu plusieurs décennies d'études très très précises, et on sait maintenant qu'à peu près, 11 millions d'Africains ont été déportés vers les Amériques. Toutes ne sont pas arrivées, puisqu'on estime qu'il y a un taux de mortalité entre 11 et 13%.
Est-ce qu'on peut parler pour autant de génocide ?
Alors on a affaire à une déportation, j'utilise ce terme, hein, une déportation organisée, un commerce criminel, mais non pas un génocide si on se base sur la définition actuelle du génocide, et qui est la volonté d'exterminer un groupe humain. Le but n'est pas d'exterminer les esclaves, sinon pourquoi les transporter aux Amériques? Le but est de les faire travailler, de les vendre et de gagner le plus d'argent. Et il faut rappeler cela, parce que sinon on ne comprend rien à la logique du système. C'est l'appât du gain, c'est un certain capitalisme qui est essentiel dans la logique de la traite.
La traite qui est d'autant plus épouvantable, les conditions de traversée étaient affreuses, hein, vous les décrivez, c'était abominable la façon dont les Noirs étaient entassés dans ces bateaux pour des traversées très longues, rendues d'ailleurs très difficiles, on l'a entendu dans cet extrait de film, par le fait qu'elle était interdite déjà par un certain nombre de pays. C'est le cas du Danemark, c'est le cas de l'Angleterre, qui traque justement les navires négriers. Comment se fait-il que l'Angleterre, avant même d'abolir l'esclavage dans ses propres colonies, ait commencé par interdire la traite, car c'est elle, je crois, qui en est pratiquement à l'origine. Pourquoi interdire la traite plutôt que directement d'abolir l'esclavage?
Oui, alors vous parliez des souffrances à bord du navire. On se focalise souvent, justement, mais uniquement sur les souffrances physiques. Il ne faut pas oublier les souffrances morales, puisqu'on a affaire à des personnes qui sont déportées vers un continent qu'ils ne connaissent pas, par des personnes à la couleur différente de la leur, et par le moins une traversée des populations qui ne sont pas du tout maritimes. Donc il y a quantité de frayeurs, on ne sait pas vers où on est déporté. Donc il y a ces souffrances également morales. Maintenant, pourquoi abolir d'abord la traite avant d'abolir l'esclavage? Par souci tactique essentiellement, pour ne pas heurter de front le lobby des planteurs des West Indies. Et donc les abolitionnistes se disent que si on abolit d'abord la traite, les planteurs vont être obligés de prendre plus soin, entre guillemets, de leurs esclaves, et que petit à petit, l'esclavage va disparaître tout seul. C'est du moins ce que les abolitionnistes espèrent.
Ce qui a pu, dans certains cas, aggraver encore les conditions de la traversée, puisque souvent les capitaines de ces bateaux jetaient par-dessus bord leur cargaison, entre guillemets, pour justement ne pas être pris.
Alors, est-ce que la répression de la traite atlantique a aggravé les conditions du transport? On n'en est pas sûr. Ça a pu les aggraver parce que les navires négriers se font plus fins, plus rapides pour échapper aux navires de guerre. Et donc, il y a un peu moins d'espace pour les esclaves. Mais en même temps, comme ils sont plus rapides, la traversée est plus courte. Donc, est-ce que les conditions de vie ont été aggravées par la répression? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est un argument souvent utilisé par les esclavagistes eux-mêmes en disant, vous voyez, vous voulez abolir la traite? Eh bien, maintenant, la traite est plus atroce qu'auparavant. Donc, il faut être prudent avec ces arguments qui sont utilisés par les uns et par les autres dans des contextes assez particuliers.
Vous évoquez, Olivier Pietrégonouillo, les esclavagistes pour lesquels la traite était indispensable à l'essor des plantations dans les colonies des Antilles, notamment. Inversement, ce qu'il y a de frappant aussi, c'est que c'est pas seulement pour des raisons d'ordre moral que la traite et l'esclavage sont condamnés au début du 19e siècle, c'est aussi pour des raisons économiques. Tocqueville, par exemple, disait ben non, l'esclavage, c'est pas rentable, c'est moins rentable que le salariat.
Oui, alors disons que les abolitionnistes souhaitent convaincre leurs contemporains de la nécessité d'abolir. Et donc, ils utilisent des arguments dont ils sont peut-être parfois pas toujours eux-mêmes convaincus. Et parmi ces arguments, il y a l'idée que le travail libre serait plus profitable, plus rentable que le travail d'un esclave.
Mais c'est pour d'autres raisons, en tout cas, qu'en 1848, en France, Victor Schœlcher profitait de la Révolution pour exiger enfin l'abolition de l'esclavage.
S'il existe un désir inné dans l'homme, c'est celui de la liberté. Nous avons fait deux révolutions pour faire respecter ce droit. Alors, si la Déclaration des droits de l'homme n'est pas réservée aux seuls blancs, je demande l'abolition immédiate et complète de l'esclavage dans les colonies françaises. Messieurs, à vous de décider. Le monde entier a les yeux fixés sur vous.
Monsieur Schœlcher, je vous remercie. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut porter d'esclaves, décrète. Une commission est instituée auprès du ministre de la Marine et des Colonies pour préparer, sous le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies. Paris, le 4 mars 1848.
Et 8 semaines plus tard, le 27 avril 1848, l'Assemblée constituante allait donc voter l'abolition réclamée par Schœlcher et sur laquelle aucun gouvernement français n'est revenu, comme Napoléon était revenu sur la décision de 1794. Cela dit, la France n'est que le troisième pays à avoir aboli l'esclavage, plus seulement la traite, mais l'esclavage lui-même.
Oui, la France, encore une fois, n'est pas la première, mais n'est pas non plus la dernière. Le Brésil a aboli l'esclavage en 1888. Le Brésil qui a été le lieu où le plus grand nombre d'Africains ont été déportés.
Ça, on l'oublie toujours. Hein. Je crois que c'est près de la moitié de la traite transatlantique se faisait en direction du Brésil.
La moitié, un peu plus, au XIXe siècle. Mais sur la longue durée de la traite atlantique, c'est peut-être en gros un bon tiers de tous les esclaves qui ont été déportés vers le Brésil.
Un pays aussi qui a mis du temps, alors que certaines anciennes colonies anglaises d'Amérique, avant qu'elles deviennent les États-Unis, avaient déjà aboli l'esclavage, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, les États-Unis eux-mêmes ne l'ont fait qu'en 1865. C'est-à-dire que c'est la guerre de sécession, en quelque sorte, qui a été le déclencheur de cette abolition très tardive aux États-Unis, Olivier Petri.
Oui, alors il y a des discussions sur le sujet avant même la guerre d'indépendance, mais finalement il faut remarquer que la plupart des premiers présidents des États-Unis sont originaires des États du Sud, qui sont des États esclavagistes.
Et eux-mêmes avaient des esclaves, je crois que Washington avait des esclaves.
Et eux-mêmes avaient des esclaves. Et il s'est posé, même pendant la guerre d'indépendance, la question, par exemple, de l'intégration ou non dans les armées pour lutter contre l'Angleterre, d'esclaves affranchis. Donc, il y a une difficulté vraiment à trancher ce problème qui naît, tranché que par la guerre.
Alors tous les grands États du 19e siècle ont donc supprimé l'esclavage à la fin du 19e siècle, au moment d'ailleurs où allait commencer ou s'achever plutôt la colonisation de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un lien entre colonisation et esclavage? On le dit souvent, alors qu'on s'aperçoit, vous l'écrivez d'ailleurs Olivier Petriot-Nouillot, que la colonisation de l'Afrique est postérieure à l'abolition de l'esclavage, pour l'essentiel en tout cas.
Oui, alors l'Afrique est colonisée finalement à la fin du 19e siècle. L'abolition de la traite anglaise, c'est 1807. L'abolition de la traite française, il y a plusieurs lois, la dernière en 1831. La traite par l'Atlantique disparaît après 1860. Et donc il y a une césure chronologique entre la fin de la traite atlantique et le début de la colonisation.
Vous vous rappelez même d'ailleurs que c'est souvent au nom de la suppression de l'esclavage c'est ce qui a servi à justifier parfois la colonisation. Livingstone, Brazza avaient pour mission entre autres de supprimer l'esclavage à l'intérieur de l'Afrique.
Oui, alors là ce qu'il faut rappeler aussi c'est que les négriers, eux, n'ont pas misé sur le commerce dit légitime. Les abolitionnistes voulaient remplacer la traite par un commerce qu'ils appelaient légitime, c'est-à-dire échanger des produits d'Europe contre des produits, des arachides ou autres d'Afrique. Et les négriers n'ont pas misé sur ce commerce. Donc tout ça pour rappeler qu'il n'y a pas forcément de continuité entre la traite et la colonisation. Maintenant, comme vous le rappelez justement, mettre fin à la traite en Afrique noire et à la traite vers le monde musulman a été un des alibis utilisés par certains colonisateurs. Un alibi pour certains et pour d'autres, ils le croyaient vraiment. Il y a eu des gens qui étaient persuadés que c'est une bonne action et d'autres qui l'ont utilisé uniquement comme un alibi.
Alors l'esclavage sera condamné plus tard encore par la communauté internationale, par la SDN, l'ancêtre de l'ONU en 1919, par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et pourtant l'esclavage continue de se pratiquer. Écoutez ce reportage de France Inter réalisé par Angéline Bouin en Mauritanie en 1998, 17 ans après que ce pays ait officiellement aboli l'esclavage.
La question de l'esclavage ne se discute pas, parce que c'est une question légale, c'est une pratique légale qui existe. Il y a plusieurs cas qui ont été cités par le Coran, donc c'est tout à fait normal.
Et est-ce que dans sa famille, où lui a déjà eu des esclaves?
Parce qu'il a dit qu'ils sont tellement liés et que ces gens-là, ce sont leurs esclaves, ils l'ont hérité de leur grand-père, donc ils ne peuvent pas les laisser. Et c'est un patrimoine, si tu veux.
Et qu'est-ce qu'ils pensent de l'abolition de 81? Est-ce que ça a changé les choses dans ce pays?
Il a dit que l'abolition, c'est une décision politique. Ça ne concerne que les gens qui font la politique. Pour eux, ils ont leurs coutumes. Ils sont trop attachés à leurs coutumes. C'est lui qui a des esclaves. S'ils veulent les libérer, c'est son problème.
Ça fait froid dans le dos d'entendre ça, Olivier Petriot-Nouillot. C'est en 1998. C'est pas au 19e siècle ou au 18e siècle ou dans l'Antiquité, ce qu'on vient d'entendre. Ça existe encore, l'esclavage. On parle de l'abolition comme si c'était un fait acquis. C'est pas vrai.
Tout à fait. Il est un livre paru il y a peu de temps chez l'Harmattan sur l'esclavage au Niger, écrit par un Africain. Donc il y a toujours des formes d'esclavage en Afrique, en Asie, et esclavage également, parfois même dans les villes de notre monde industriel, sous la forme de personnes maintenues à la maison, sans papier, forcées à travailler. Et donc, l'esclavage est toujours un phénomène contemporain. Maintenant, il faut faire très attention dans la définition de l'esclavage, ne pas confondre toute forme d'exploitation avec l'esclavage.
Et pourtant, il y en a qui y ressemblent, même si ce n'est pas l'esclavage tel qu'on vient d'en parler au XIXe siècle. On peut dire quand même que des enfants vendus par leurs parents, et souvent à usage sexuel, c'est de l'esclavage.
Oui, dans ce cas, tout à fait. Le fait qu'une personne soit vendue à une autre, devienne la possession même temporaire d'une autre, c'est une des caractéristiques de l'esclavage. Le fait que, par exemple, dans nos pays riches, des personnes soient détenues dans des maisons sans papier, dans des sociétés où, si on n'a pas de papier, on n'a pas d'existence légale, c'est aussi définir, en quelque sorte, une situation d'esclavage.
Merci Olivier Pétré-Renouillot. Je rappelle que vous êtes l'auteur « Les traites négrières », et c'est l'histoire globale, publiée en 2004 chez Gallimard, un livre qui a reçu en 2005 le prix du Sénat du livre d'histoire. À lire également « Il fut un jour à Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants » de Joseph Ndiaye, édité chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits des films « Victor Schœlcher, l'abolition » de Paul Vecchiali, « Cobra Verde » de Werner Herzog et « Tamango » de John Berry. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Amandine Grévaux, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.